L'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3.
La, c'est pas les Scottish, c'est ça, c'est une mazurka, ça. Oui.
Et bonjour, c'est l'écho du parquet qui revient pour sa troisième saison.
Et sa 41e émission.
41e émission qui est, comme les années précédentes, diffusée si vous habitez en Drôme Ardèche sur trois stations locales, Radio Méga, Radio Saint-Ferréol et Fréquence 7. Et une émission aussi que vous pouvez écouter sur notre podcast directement à Audioblog Arte Radio ou sur la plateforme modale de la FMDT. Voilà. Et donc on attaque très fort la saison avec directement le sujet du jour. De quoi qu'on va parler?
Le sujet du jour, ouais, qui est, correspond à l'album du jour, qui est l'album de l'été, qui est le premier album d'un...
De l'été, voire de l'année, voire de la décennie.
Ouais, on y va fort, mais ok.
Okay.
Allez, on va dire ça. Et jusqu'au prochain, quoi.
Jusqu'au prochain, c'est ça dont on parlera.
Eh bien, c'est l'album le premier album du groupe Triplette, dont on va tout de suite écouter un morceau avant de vous en parler plus. Le morceau qu'on va écouter, c'est une mazurka qui s'appelle « Belle bergère ».
Oh,
C'était donc Belle Bergère du groupe Triplette. Alors juste une petite parenthèse avant de passer à leur interview, puisqu'on les a rencontrés cet été. Ce morceau, c'est en fait la mélodie assez lointaine qui provient d'un assez lointain souvenir de Camille, qui est la chanteuse du groupe, qui, dit-on sur le livret du disque, a peut-être été un peu déformée par rapport à la version qui lui a été transmise. Voilà, bah c'est ça, la musique trad aussi, elle est vivante.
Elle est vivante et elle change.
Elle change.
Je crois que les histoires de Bergère, il vaut mieux les déformer un peu, il me semble.
Non, je crois que c'est pas les paroles, c'est vraiment la ligne mélodique.
Ah, la musique. Ah ouais, la musique, d'accord, ok.
Qui a été, voilà, les paroles ont été écrites sur un morceau de papier, donc je crois que c'est les vraies paroles. Voilà, et le disque s'appelle, il est sorti cet été, on vous le conseille chaudement, il s'appelle Le Raton sort des délais. C'est en occitan. Et puis on les a donc, comme je disais, rencontrés au Son Continu et on les écoute tout de suite nous parler de leur parcours. On commence avec Milo qui est violoniste.
Et un peu par hasard, vers mes 18 ans, des amis m'ont dit « Ah, on va en festival, viens quoi ». Et du coup, j'ai débarqué, c'était Funambal. J'ai débarqué à Funambal, donc vraiment, j'y connaissais rien du tout. Et je sais pas, je suis tombée un peu en amour avec le bal, quoi. Avec, enfin voilà, tous ces gens, ça m'a un peu, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu ouf, quoi. Tous ces gens qui dansaient ensemble, le rapport à la scène aussi, enfin voilà. Et du coup j'ai commencé à sortir mon violon dans les bœufs, donc là je me suis rendu compte que je savais pas du tout apprendre d'oreille et donc petit à petit bah voilà, j'ai appris à apprendre d'oreille, j'ai repiqué pas mal de CD dans ma chambre, puis j'ai buffé avec des gens, puis je me suis fait des amis, et puis après j'ai commencé à faire de la musique, et puis j'ai fait des stages au Braio et aussi à Mustradem. Et après, au Braio, j'ai rencontré Camille et Zoé. Et puis voilà, on a monté Triplette.
Okay. Et depuis, on en parlera après, mais du coup, ton lien avec les Braio maintenant ?
Alors, mon lien avec les Braio maintenant... Alors, les Braio, c'est une association où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et donc moi là ça fait 5 ans que je travaille chez les Braio, et en 5 ans je fais plusieurs choses différentes, donc déjà donner des cours de violon à l'école de musique, il y a aussi un orchestre à l'école avec des classes du village, donc ça c'est hyper intéressant parce que les élèves du village du coup viennent au Gamouné pour apprendre de la musique, et du coup quand il y a des restitutions il y a tous les parents du village qui viennent et tout. Ça rajoute une autre dimension au lieu. Je me suis occupée un temps de la coordination de Tradamuse, qui est un dispositif de bal pour enfants sur le département du Puy-de-Dôme, le 63. Et après, des actions culturelles, de l'action culturelle. Donc moi, j'ai principalement dans les écoles et les collèges. Voilà. Et du coup, j'ai coordonné la création du nouveau répertoire de bal pour enfants qui s'appelle Fanmirette. Donc voilà, qui est un recueil où il y a une trentaine de danses et de chansons pour faire du bal pour les enfants, quoi. Et puis Triplette, c'est aussi un groupe Braio, donc ça rajoute encore quelque chose. Puis après, diverses formes de bénévolat quand il y a besoin, quoi.
Moi c'est Zoé et je joue du banjo et je joue aussi pas dans Triplette mais de l'accordéon diatonique. Je suis professeur de musique traditionnelle dans le Lot. Et alors comment je suis arrivée à la musique traditionnelle? Quand j'étais petite dans le village où j'ai grandi, dans les Cévennes, mon père faisait partie d'une chorale de chanteurs un peu roots où ils se retrouvaient régulièrement pour chanter des chansons, et moi j'étais petite et j'allais toujours aux répétitions, et du coup je suivais aussi quand ils allaient chanter dans des petits festivals comme Boulégan à l'Oustal ou ce genre de choses. Donc voilà, j'avais à peu près 7-8 ans quand j'ai commencé à découvrir ce milieu de la musique traditionnelle.
Et ta formation musicale, elle est dans ce milieu?
Et alors j'ai pas formation musicale, c'est tout autodidacte. J'ai jamais pris de cours de musique quelconque. Mon premier instrument, c'est le tambourin italien par lequel j'ai commencé. Et tout soit en imitation, soit des gens qui me montraient un peu sur le tas comme ça, ou alors tout dans ma chambre.
Ouais. Est-ce que le choix du banjo, c'est un rapport avec les braillots qui, me semble-t-il, sont un peu l'asso qui a mis cet instrument en avant dans le trad?
Eh bien, alors, je connaissais pas trop les braillots quand je me suis mise au banjo. J'habitais dans une coloc où un jour mon coloc jouait du banjo et il a invité toute une bande de personnes qui jouaient du banjo à faire une soirée et ils ont buffé toute la soirée que du banjo. Et du coup, le lendemain matin, il y en a un qui m'a prêté un banjo, j'ai essayé comme ça et voilà, du coup, depuis, j'ai pas arrêté. C'était un peu le coup de cœur de l'instrument.
Moi, c'est Camille. Je suis musicienne aussi. Je joue du violon, notamment, et je chante. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mes parents, je suis originaire du bassin d'Arcachon. Et mes parents, qui ne sont pas vraiment originaires de là, mais qui ont atterri là juste avant ma naissance, ils faisaient partie d'associations qui organisaient des événements autour de Bordeaux sur les musiques traditionnelles. Et mon père, il est musicien et du coup, il faisait partie d'un groupe de musique amateur. Donc en fait, moi, j'allais au bal tous les week-ends depuis que je suis née, en fait. Et donc, je me rappelle avoir appris à danser sur les pieds de mon papa et de ma maman, à être debout sur les pieds de mon papa pendant que mes parents sont en train de danser tous les deux, ou ce genre de choses, ou de courir entre les danseurs dans les bals. Et donc, pendant longtemps, moi, j'ai fait que danser. J'adorais ça. Je faisais un peu partie d'un groupe folklorique aussi, vers chez mes parents, où j'ai appris les échasses landaises et on dansait en échasses. On était deux jeunes, alors ils essayaient de nous ferrer comme ils pouvaient. Je pense que les échasses, ça rendait un peu sexy le truc. Du coup, voilà. Et puis, donc j'ai beaucoup dansé et chanté un peu comme ça. Et la musique, c'est venu beaucoup plus tard. En fait, du coup, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait des études de bibliothécaire d'abord et médiation culturelle. Et je voulais bosser dans ce milieu-là. Donc, je m'imaginais organisatrice de festivals. Puis après, je me suis rendu compte que personne faisait ça professionnellement dans ce milieu. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il y a des compagnies qui existent ou des trucs comme ça, alors je vais faire ça un peu. C'était ça mon objectif.
Attends, tu jouais pas du violon, hein?
Non, non. Et du coup, j'ai commencé à travailler notamment avec une structure qui s'appelle Art Brut, qui à l'époque faisait tourner du coup Familia Artus, tout un tas de groupes du Béarn qui manipulent un petit peu les musiques traditionnelles. Donc je bossais pour eux. Et du coup, j'avais décidé de rester à Toulouse parce que j'étais bien là-bas, donc je bossais en télétravail pour eux. Et puis du coup, à Toulouse, il y a une prof de danse qui m'a sollicité. Moi, je prenais des cours de danse au Conservatoire Occitan. Et la prof m'a sollicité pour la remplacer à Colomiers, dans l'association Arpaillant, qui faisait des cours hebdomadaires de danse. Et du coup, je suis devenue prof de danse trad. C'était super, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit qu'il y avait un truc que j'avais envie de creuser ça vraiment, mais sauf que ça n'existe pas du tout des formations professionnelles de danse trad. Et comme en même temps il y avait le DEM de musique trad au conservatoire de Toulouse et que je voyais que bah, du coup ils faisaient beaucoup de la danse et tout aussi, qui travaillaient vraiment sur ces sujets-là tout le temps, je me suis dit bah moi je fais pas trop de musique mais je pourrais faire ça en chant peut-être. Et du coup j'ai postulé en chant. Et j'ai été prise, alors j'ai passé 2 ans au DEM à Toulouse. Pendant le DEM, je me suis mise au violon. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite, mais je me disais que j'étais trop vieille. Et j'ai été à la fête des violons populaires à Sauve. Et il y a une dame, une vieille dame, qui m'a dit « Mais pourquoi tu joues pas de violon? T'as l'air de connaître tous les trucs, t'as l'air d'être totalement émerveillée. Pourquoi tu fais pas ça ?» Et je lui ai dit « Mais non, mais il faut commencer beaucoup plus tôt. Moi, j'ai 24 ans, je suis beaucoup trop vieille. » La dame, elle a vraiment explosé de rire. Elle avait 80 ans, elle m'a dit « Moi, j'ai commencé le violon à 70 ans. Alors t'arrêtes tes conneries maintenant. Si à 24 ans, t'es trop jeune, t'es trop vieille pour faire des trucs, franchement, t'as pas fini, quoi. » Et du coup, je l'ai écouté. Et voilà. Et après, je suis partie à Lyon pour faire un DE, un diplôme d'état de prof de musique, trad. Toujours pareil, parce que ça n'existait pas pour la danse.
Alors parlons de la naissance du groupe. Triplette, ça existe depuis quand? Et qu'est-ce qui a motivé ce projet à toutes les trois, en dehors du fait de passer beaucoup de temps avec les deux autres? Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de monter un groupe ensemble? Qu'est-ce que vous vouliez faire comme type de musique?
C'est Milo qui a eu l'idée de monter Triplette.
Et ben, du coup, en fait, avec Camille, on s'était un peu rencontrés à Lyon. Donc pendant que Camille était au CFEDEM, moi... j'ai fait le CFMI, qui est une autre formation de pédagogie en musique, quoi. Et donc, je me souviens qu'une fois, j'avais vu le solo de Camille qui s'appelle Thérèse. Et genre, vraiment, j'avais trouvé ça trop bien. Je m'étais dit, waouh, et tout, ah là là, elle chante trop bien. et du coup, enfin, mais à l'époque, je me souviens qu'on avait bu un café ensemble. Et Camille m'a dit « Mais pourquoi tu montes pas un groupe de bal et tout ?» Et je me sentais vraiment pas légitime. Je me disais « Non, il y a des gens qui font ça super bien. » Mais voilà, je sais pas, ça m'était resté un petit peu ce truc. Et je sais pas, quelques années plus tard, du coup, je me disais « Ok, bon, maintenant j'ai envie de monter un groupe de bal. » J'avais déjà un autre groupe de bal qui s'appelle Arizona. Et du coup, je me disais « Ah, j'ai envie d'en monter un autre. » Et donc j'avais dit à Camille, ah ben est-ce que ça te dirait quoi et tout, et donc Camille m'a dit oui, mais peut-être pas à deux quoi, enfin, et moi aussi je me disais, ah, pas à deux, peut-être une troisième personne, nanana, bon ok, le temps continue de passer, arrivent les volcaniques, et voilà, et là je croise Zoé et on se dit, bon bah go.
C'est à peu près quand ça?
Ça c'était au volcanique d'il y a 4 ans, donc 2021, okay. Voilà.
On s'est dit, on va faire de la musique ensemble. Parce que du coup, au Volcanique, Milo, il est venu me voir. Il m'a dit, la troisième personne, est-ce que ça pourrait pas être Zoé, que je connaissais aussi par ailleurs, parce qu'on s'était croisés plein de fois en festival, notamment à la fête des violons populaires et à Boulegan. Et moi, j'ai dit direct, mais grave. Alors, on est allé lui demander. Elle a dit d'accord, mais on savait pas du tout ce qu'on allait faire à ce moment-là. Et du coup, on s'était donné rendez-vous fin août. On a commencé à jouer, on avait chacune ramené des trucs, des morceaux qu'on se disait que ça pourrait être cool. Et du coup, bah en fait, à un moment, assez vite, les Rigodons, c'est apparu comme un truc qui était un point commun, surtout entre Milo et Zoé, parce que moi, j'en jouais pas. C'est elles qui m'ont mis le pied à l'étrier. Voilà. Et du coup, comme on aime bien, on a fait. Mais je pense que il y avait, enfin pour ma part en tout cas, j'avais pas tellement conscience que c'était un répertoire si peu joué et si peu présent en bal. Enfin pour moi c'était bah oui, on va jouer des Rigodons quoi, mais ça me paraissait pas être non plus un truc révolutionnaire. Aussi parce que même si les groupes en jouent peu, mais il y avait déjà des groupes autour de nous. Par exemple, chez les Braillots, qui en jouaient un ou deux de temps en temps. La Prère, ils en avaient un dans leur répertoire. Bougnassound, ils en faisaient un. Enfin, c'était des trucs un peu anecdotiques, mais pour moi, c'était... ouais, c'est OK, on peut jouer des Rigodons comme on pourrait jouer des Scottish, quoi. Il n'y a pas de souci, on a le droit de mettre ça dans notre répertoire. Et en fait, c'est un peu exceptionnel, je crois.
C'est très bienvenu.
Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, parce que justement la compagnie du Rigodon a fait un gros travail depuis des années d'essayer de le transmettre.
Le lobbying.
Et ça a pris du temps, mais là ça y est, ça commence à bien prendre. Et pour le coup, moi, je fais maintenant partie et des Braillots et de la compagnie du Rigaudan avec différents projets. Et c'est un peu un... Enfin, je sais pas, il y a un truc dans le répertoire et musical et la danse qui peut être aussi assez proche de la bourrée dans le chercher, je sais pas comment...
Dans le groove.
Ouais, dans le groove, dans ce que ça demande et tout ça.
Et, même la danse est assez proche.
Ouais, ouais.
Puis c'est un répertoire de violon, beaucoup. Et du coup, Milo, il est super intéressé, il s'est super intéressé à ce répertoire-là. Aussi pour ça, et du coup ça fait sens parce que notre musique, c'est quand même beaucoup, on se base beaucoup sur des répertoires de violon à la base. C'est surtout ça, les collectages qu'on va chercher de chant et de violon. Je pense que être un groupe Braillot, avant que ça soit une étiquette esthétique, c'est un engagement vis-à-vis de l'association. Nous, on s'est rencontrés à cet endroit-là, mais c'est une asso dans laquelle moi, j'étais déjà investie depuis longtemps. Même si je n'habitais pas à côté, je faisais partie de l'orga de Comboros depuis quasiment le début. Je les avais rencontrés à peu près en même temps que j'ai commencé mon DEM. Juste avant d'arriver à Toulouse, en fait. Et ils ont largement contribué à mon envie d'en être, de ce milieu-là. Et du coup, c'est grâce au Volcanique qu'on s'est rencontrés, toutes les trois. Et c'est aussi la première asso qui nous a dit « on vous programme ». On n'avait encore jamais joué. Et quand ils ont su qu'on créait un groupe tous les trois, ils nous ont dit « ça vous dirait de jouer au Volcanique l'année prochaine ». Et on était vraiment en mode « what ? Mais attendez, on n'a pas encore de répertoire en fait !» Et du coup, cette confiance-là, c'était un super cadeau. Et du coup, nous, ça nous a aussi donné envie de rendre quelque chose en disant « bah, on va s'inscrire dans ce truc-là » et contribuer au dynamisme de cette association par notre musique. Et pour moi, l'héritage des Braillots, il tient aussi à ça, à un investissement militant dans ce métier. Se dire que c'est un milieu qui repose essentiellement sur l'engagement associatif et bénévole, que être musicien ou musicienne, ça ne peut pas être dans ce milieu-là, juste arriver, prendre ton cachet, faire ton bal et te barrer. Que ça passe aussi par mettre les mains dans le cambouis à plein d'autres endroits. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on partage fortement. Même Zoé, qui est un peu plus éloignée des Braillots, mais géographiquement, aussi dans l'investissement que tu peux avoir dans les assos de vers chez toi.
C'est que pour moi, je te rejoins sur le fait que il n'y a pas de... je sais pas comment dire... De jury d'entrée esthétique, quoi. En fait, on est entièrement libre de proposer ce qu'on veut musicalement, quoi. Et c'est le cas pour tous les groupes Braillots, et je crois qu'il y en a une trentaine. Donc, en fait, ça participe aussi à la richesse des propositions musicales et aussi à la liberté, en fait, d'expérimentation, d'exploration. D'appropriation, enfin de la manière dont on s'approprie, dont on s'imprègne aussi de tous ces matériaux, quoi. Voilà.
Du coup, pour toi, tu dirais qu'il n'y a pas de son Braillot, par exemple?
Je sais pas, peut-être qu'on pourrait répondre oui et non à cette question. Je dirais oui parce que, comme on est quand même dans de la transmission orale, en fait, on est dans de l'imprégnation, quoi, dans du bain de musique et de danse. Et donc forcément, on s'inter-influence et on s'enrichit les uns une les autres. Forcément, il y a des fois, il y a des directions communes qui se dessinent, en fait, entre les pratiques des individuelles des personnes, en fait. Du coup, on pourrait définir des pratiques collectives, des choses qui sont partagées, quoi. Et d'un autre côté, peut-être qu'on peut répondre non à cette question, parce que y a des groupes, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans la diversité des groupes braille, il y a des choses très différentes qui sont aussi proposées, c'est pas forcément parce qu'on va écouter un groupe braille qu'on va tomber sur les mêmes choses, quoi. Voilà.
Sur la question des arrangements, vous aviez commencé à en parler. Est-ce que vous arriveriez à définir ce qui est un peu votre patte en tant qu'entité et groupe sur les arrangements ? La question s'adresse un peu plus particulièrement à Zoé, mais parce que c'est ce que moi j'ai pigé en vous écoutant. J'ai l'impression que dans tes choix d'arrangements, il n'y a pas la volonté par rapport à d'autres gens qui font du banjo de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Que c'est pas comme ça que t'abordes et que toi t'essayes de travailler plutôt des boucles rythmiques régulières que tu fais tourner, que tu varies un peu, etc. Est-ce qu'il y a de ça dans vos arrangements ?
Oui, effectivement, totalement. Après, il y a aussi de la mélodie, mais peut-être ça va être un jeu de banjo qui est plus, je sais pas comment l'expliquer, mais qui va être moins proche de, par exemple, la musique irlandaise, qui est très dans la mélodie et le débit de notes. Là, ça va être effectivement plus bourdonnant et avec un jeu de boucles. Mais ça, pour le coup, c'est aussi un travail qu'on fait collectivement, de trouver des boucles, de trouver des choses comme ça. Je me suis beaucoup inspirée pour jouer de banjo des jeux du violoneux. Du coup, c'est vraiment ça que j'écoute, et d'essayer de repiquer et pouvoir essayer de refaire des choses que les violons ils font au banjo. Alors, on ne peut pas faire exactement la même chose, mais essayer de s'en rapprocher à un max avec du jeu justement qui bourdonne et qui est un peu un truc de la musique trad, quand même pas mal.
Et puis, on fait beaucoup, enfin on est, moi je, enfin c'est aussi parce que je suis chanteuse, alors j'aime bien quand il y a des chansons. Du coup ça fait partie des trucs qu'on travaille, je pense, pas mal, l'idée de partir des mélodies et des paroles, et donc peut-être avec un rapport davantage à l'accompagnement de ça que si on était vraiment sur, enfin, on n'est pas trop sur du thème en tutti, par exemple, on fait peu ça. Emilio, il aime beaucoup les pêches, de faire des... Ouais, pam, 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 des trucs comme ça, par-dessus une mélodie ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est souvent les propositions de Milo, ce genre de trucs. Et après, on arrange à trois. C'est vraiment... chacun propose des trucs. Parfois, on arrive en proposant un morceau avec des idées de qu'est-ce qui pourrait aller dessus. Mais la plupart du temps, on propose le morceau tout nu. Et on cherche ensemble. Ça met longtemps souvent à ce qu'on trouve à ce qu'on construise des arrangements. Je crois qu'on avait calculé en moyenne, on était à une journée pour construire un arrangement de A à Z, quoi.
Comme on fait du bal, il y a aussi une importance à la danse, quoi. De la tourne, quoi, de la longueur du morceau, du tempo, comment est-ce qu'on l'entend.
Aussi parce qu'on est tous les trois danseurs-danseuses, et du coup, nous, ce rapport à cette musique-là, il passe aussi beaucoup par ça. Enfin, pour moi, c'est super important que on soit vraiment carré. Il y a un truc primordial des idées des fois qu'on jette en se disant « Ah mais là, ça va ça va pas porter la danse, quoi. Ça va mettre les pieds dans le tapis, tant pis. C'est peut-être intéressant musicalement, mais du coup, nous, on est là pour faire du bal, donc on jette, quoi.
Sans dire que d'habitude on s'emmerde un peu dans des baltrades qui sont très tristes, mais quand même votre bal se distingue largement par l'humour qui y est présent. Est-ce que vous pourriez parler de la place de l'humour dans votre bal?
Oui, mais en fait moi je me rappelle très bien que à la première résidence je leur ai dit moi j'ai envie de faire un bal joyeux. Parce que il y a tout un tas de groupes que je trouve qui font de la musique très belle, mais il y a quand même un aspect un peu triste et ou je sais pas sérieux. Mélancolique, sérieux, ou avec parce qu'on est on était toutes les trois attirées aussi par la recherche du bourdon, de l'aspect un peu trans et ce genre de truc, mais qui va souvent avec quelque chose d'assez noir, quoi, presque. Et moi, j'avais envie que ce soit rigolo, qu'il y ait de la joie dans notre musique. Et du coup, je pense que déjà, on était raccord là-dessus parce qu'on est globalement des personnes assez joyeuses. mais du coup, c'est un truc qui nous guide un peu. On aime faire des blagues dans notre musique aussi. Pas trop prendre au sérieux, je crois.
Camille, beaucoup qui fait les blagues.
Entre les morceaux. Mais je crois qu'il n'y a pas que entre les morceaux que c'est, que notre, que c'est joyeux, notre bal.
Enfin, même entre nous, en fait, on se fait des blagues. Enfin, moi, je crois que c'est ça que j'aime beaucoup quand je fais des bals avec Triplette. C'est que je sais que je vais pouvoir les embêter un peu. Et même quand on répète tout ça. Enfin, en fait, on a même une bourrée qui s'appelle la bourrée blague parce que le truc, c'est... Enfin, bref, c'est parti d'une blague où on rajoute des on doit compter, enfin bon bref, et le jeu c'est un peu qui va pas se perdre dedans, enfin oui bah après vu que c'est une bourrée trois temps, les danseurs on les laisse en autonomie là-dessus, mais c'est aussi entre nous, on est un peu du coup voilà, et il y en a d'autres des arrangements qui sont un peu comme ça en mode c'est un peu espiègle quoi.
Gotta Move, joué par Muddy Gurdy. Et donc ce groupe, je trouvais un jeu de mots comme nom de son groupe qui est vraiment très très bien trouvé parce que ça désigne parfaitement ce projet avec Hurdy Gurdy. Je ne sais pas si vous savez, c'est le nom de la vielle à roue en anglais. Vielle qui est ici jouée par Gilles Chabna, le célèbre Gilles Chabna. Et Muddy, à la place de Hurdy, ça évoque directement l'univers des musiques americana et notamment du blues, avec une référence très claire au célèbre bluesman Muddy Waters. Et donc Muddy Gurdy...
Ah, je croyais que c'était la boue.
Oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Les eaux boueuses, pour les eaux boueuses du Mississippi, d'où venait Muddy Waters à l'origine, avant d'aller à Chicago. Et donc Muddy Gurdy, c'est un trio qui joue essentiellement du blues, mais avec une vielle à roue. Et parce que c'est un trio auvergnat, en fait, qui joue une musique venue du delta du Mississippi, mais un peu contaminée par les traditions de chez eux. Gilles Chabna, c'est un vielleux qui est issu du milieu du trad, et qui a, tout au long de sa carrière, cherché à tracer des ponts avec d'autres univers musicaux, parfois plus pop, et ici avec le blues. Et dans ce projet, il a joint ses forces à celles de la guitariste-chanteuse Tia Goodbell et du percussionniste Marc Glomo. Muddy Gurdy a au cours des 10 dernières années sorti 4 albums qui sont nourris en partie des compositions de Tia Goodbell et en partie de reprises, notamment de standards du blues américain comme ce You Gotta Move de Fred McDowell qui avait déjà été interprété par les Rolling Stones et Led Zeppelin. Et je crois qu'ils l'ont interprété en disant que c'était de lui, souvent Led Zeppelin, il volait des titres aux gens. Ce titre est disponible sur le 3e album du groupe qui s'appelle Homecoming, qui est sorti en 2021. Et le titre, là aussi, de l'album illustre bien ce que le groupe a fait pour ce disque. D'abord du blues, bien sûr, mais ponctuellement contaminé par la vielle et le trad auvergnat. Ce retour à la maison est vraiment fait maison, parce que sa conception et son enregistrement ne reposent pas sur des heures et des heures d'enregistrement en studio avec des mois et des mois de post-production. En fait, le groupe a fait des escales, parfois même à pied, avec le matériel sur le dos, dans des lieux auvergnats qu'ils affectionnent, depuis un cratère de volcan jusqu'à un bistrot extérieur en passant par une grange, et ils ont enregistré direct en live les prises sans les retoucher ensuite. Et avec quelques copains qui étaient aussi venus filer un coup de main, comme par exemple Louis-Jacques de Super Parquet à la Cornemuse, ou bien évidemment, on l'aurait attendu, Guillaume Vargos du duo Vargos à l'harmonica, qui a déjà cette couleur-là dans son groupe.
Donc voilà. Là, la Hurdy Gurdy, elle était vraiment dans la Muddy, quoi.
Dans la Muddy, ouais, c'est ça. Et c'était dans l'écho du parquet, le moment Appalaches-Monde-Auvergne, même combat, et maintenant, on passe à complètement autre chose. Thank you.
on vient d'entendre Bulle de balle avec une suite de bourrées à deux temps. C'était La vie des morts / La nuit des porcs vivants.
Alors, la vie des morts, c'est les morts sont vivants ou ils ont un avis à donner ?
Ils ont un avis à donner. Mm-hmm. Ouais, on ne sait pas lequel ils sont. C'est dommage qu'il n'y ait pas de parole sur ce morceau parce qu'on aimerait bien savoir. Et puis La nuit des porcs vivants. Voilà, à la radio, j'espère qu'on entend bien que c'est effectivement des cochons. Mm-hmm. Les porcs vivants. Bulle de balle, sinon, c'est donc un trio qui est en fait composé des mêmes musiciens que Bulle d'air. Alors, il y a plein de jeux de mots. Hein. Bulle d'air écrit E-I-R-E, comme l'Irlande. Mm-hmm. C'est un groupe, justement, avec lequel ils font de la musique irlandaise d'habitude. Alors, une fois cela précisé, on comprend mieux pourquoi leur musique de balle regorge pas mal de sonorités irlandaises, vous avez dû le remarquer. Soit du fait de l'instrumentarium, guitare, violon, whistle, ça c'est très irlandais, des choix d'arrangement ou des mélodies qui sont composées avec quand même des mélodies qui font penser à des mélodies irlandaises. En 2022, le trio fabrique un répertoire de musique de bal folk, donc avec les danses qu'on y retrouve classiquement. Il y a quand même une petite surprise puisqu'on retrouve une Scottish impair, ce qu'on ne trouve pas très souvent en bal folk. Et voilà leur premier album qui est fraîchement sorti. Il s'appelle Éponyme et tous les morceaux sont des compositions.
Et il s'appelle vraiment Éponyme, ils l'ont marqué sur la pochette. Ouais. Voilà. Tous les albums s'appellent Éponyme quand ils n'ont pas de titre, mais eux, ils l'ont vraiment appelé Éponyme.
Voilà, mais sans E, ça fait un peu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de E à la fin d'Éponyme. vous en déduirez ce que vous voulez.
Ah, je vais commencer par là, ouais. Nous ferons ronfler le violon, la tempête et le tympanon. Ronfler si, ronfler là, ronfler la musique, la lanterne magique. Il y en avait davantage, mais j'en sais pas plus.
Non, mais comment vous savez que c'est lui qui a inventé le petit coup?
Mais tout le monde le sait. Mais comme mon père a inventé, mais ce qui s'appelait les tirardipipés, c'était ma mère.
Non, mais peut-être qu'il avait ajouté un couplet.
Ah, bien sûr que non. Il a ajouté rien du tout. Qu'est-ce que mon père voulait qu'il ajoute? Dites-moi.
Des fois, on connaît un air et on met des paroles.
Mais jamais, il n'existait pas cet air. Oh, ça m'a mis en colère quand on m'a dit c'était un tel qu'il avait inventé.
Elle est drôle, cette virgule. Et nous allons finir l'émission en vous parlant un petit peu de Clocarna. Clocarna, qui est un duo qui réunit deux musiciennes. Voilà, je vais vous les présenter. C'est pas pour dire que ce duo, ils sont deux. Ça, c'est pas très original.
Non, c'est intéressant. On va peut-être l'écouter plutôt.
Si c'est tout ce que tu as à en dire, qu'ils sont deux dans le duo. Alors, les deux musiciennes sont Vanessa Viro, qui joue surtout de la flûte à bec, ainsi que de la déclinaison traditionnelle suédoise de cet instrument, la herjlaspipa, mais aussi de la viole de gambe. Et comme on peut le deviner avec cet instrumentarium, Vanessa vient de l'univers de la musique baroque. De l'autre côté, Jenny Desmarais, qui joue du nickel harpa et du quinton, un violon baroque à 5 cordes. Les petits malins auront à l'évocation du nickel harpa compris que Jenny est une passionnée de musique suédoise. Voilà. Et fort logiquement, la réunion de ces deux musiciennes a produit cette année un disque intitulé Polonaise, c'est-à-dire, si j'ai bien compris le livret, l'ancien nom de la Polska, d'origine polonaise, et leur répertoire est orienté vers la musique suédoise du XVIIIe siècle. Pour cela, elles se nourrissent de partitions découvertes au début du siècle suivant, au XIXe, dans le sud de la Suède, notamment dans les régions du Smaland et de la Scanie. Et les Clocarna qui ont donné leur nom au groupe, c'est littéralement les sonneurs de cloches, c'était les musiciens ancêtres des collecteurs qui, avec leur cahier de partitions, ont contribué à recueillir les airs traditionnels et à codifier ce qui allait devenir la musique traditionnelle suédoise. Et c'est cette rencontre entre la musique traditionnelle et la musique baroque que veulent faire vivre Jenny Desmarais et Vanessa Viro, à travers un répertoire qui est aussi celui des musiques à danser du bal suédois, mais qu'elle, elle présente dans une forme qui n'est pas destinée à la danse. Et tout ce que je vous dis est issu du livret du CD qui a été rédigé par Jenny et qui est à la fois très synthétique et très informatif. Voilà. Et donc pour vous présenter ce disque sorti cette année, nous allons vous proposer en guise d'illustration de tout ça, la pièce Dahlgren 687, je suppose du nom du collecteur Andreas Dahlgren et peut-être dans son cahier 6, paragraphe 87, un peu comme dans les évangiles selon saint suédois ou quelque chose comme ça.
Voilà, ben on se quitte donc sur une parole sainte.
Sur une parole sainte, sacrée et suédoise. Et on vous dit au revoir et à la prochaine.
À la prochaine.